Autre radio, autre culture, bonsoir. Aujourd'hui, nous prenons le chemin des seigneurs de la musique tzigane avec la famille Kodolban, avec la participation de Véronique Kazanski. Bonjour Véronique.
Bonjour Marie.
Et de Constantin Kazanski. Bonjour Constantin.
Bonjour.
Qui va jouer le rôle un petit peu d'historien, d'archiviste.
Ouais.
Celui qui sait.
Oh, celui qui est le borgne dans le royaume des aveugles.
Ça commence.
Véronique,
oui.
C'est ta famille.
Oui.
Tu t'appelles Véronique Kodolban.
Oui, Véronique,
voilà.
Kodolban et Kazanski.
Oui.
Parce que l'archiviste. Là.
C'est lui qui garde tous les papiers, toutes les photos,
c'est lui qui garde tous les papiers,
toute
les photos,
la presse,
qui a fait les
famille.
Dossiers, qui a empilé les dossiers. Le jour où ça m'a pris d'aller fouiller là-dedans, j'ai fait un peu le lien, quoi, entre tous ces gens-là et les époques différentes. Et c'est extraordinaire cette histoire parce qu'il y a des années que je voulais faire ça. Et un monsieur, directeur artistique chez Reader's Digest, qui s'appelle Patrick Campistron, m'a demandé si je ne voulais pas essayer de faire une rétrospective de tous ces enregistrements de ma famille. Eh bien oui. Donc, tous les documents étaient sous la main et beaucoup d'enregistrements, justement. Ça a été très passionnant à faire et je dois le remercier parce que peu de gens se seraient lancés là-dedans. Bon, c'est un véritable mélomane, ce n'est pas un amateur dans le sens contraire à professionnel. C'est un grand professionnel amateur mélomane. Voilà. Et je le remercie et j'espère qu'il continuera à faire de belles choses comme ça.
Alors cette famille Kodolban, ce sont des dynasties de musiciens.
Mm-hmm.
C'est incroyable. Et ça remonte à quand ?
Alors,
au plus loin où tu
alors,
veux
plus le plus loin, avec certitude, c'est dans les années 1820. Avant, je ne suis pas totalement sûre qu'il y ait eu encore des musiciens. Mais l'ancêtre, dont on a les photos d'ailleurs, était musicien, oui. Il est né environ vers 1820, oui, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il jouait comme type de musique ? Qu'est-ce que c'était exactement ?
Alors, bon, quel type de musique ? Évidemment, en Roumanie à cette époque-là, c'est classique léger, de la musique tzigane, un peu comme après, tous les orchestres, ceux qui se sont fait connaître dans le monde entier, ont continué cette tradition. C'était une sorte de musique de divertissement, puisque les disques n'existaient pas, les gens écoutaient la musique pour se divertir. Comment dire, les choix des musiciens étaient très larges. Et il gardait quand même toujours une part assez traditionnelle, puisqu'à cette époque-là, les gens aimaient encore la musique traditionnelle, surtout dans les pays balkaniques où elle est très riche.
Est-ce qu'on a une idée comment il pouvait propager sa musique ou son savoir ? Est-ce qu'il était musicien dans une ville ? Est-ce qu'on sait tout ça ou pas du tout ?
Bon, à son sujet, je ne sais pas grand-chose. Je sais qu'il a joué dans une ville qui s'appelle Braila, qui est une grande ville du Danube en Roumanie. Bon, il a dû très certainement aussi partir un peu en Russie avec ses fils, mais beaucoup plus de détails que cela, je n'en ai pas. Concernant cet ancêtre qui s'appelait Kaline Kodolban, et qui était violoniste.
Non, je ne sais pas plus précisément sur ton ancêtre, mais en général, ça se faisait par une sélection naturelle. Il y a toute une caste de musiciens qu'en Roumanie, on appelle les lautars. Lautars par lutte, autrement dit des rhapsodes, des bardes, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'était des gens qui jouaient, mais qui chantaient, qui connaissaient par cœur les chansons et qui, évidemment, jouaient, comme le disait Véronique, une musique de divertissement qui englobait tout ce que les gens, tout ce que la clientèle qui était sur place, qu'elle connaissait et qu'elle aimait. Ça pouvait être des airs d'opérette, des airs d'opéra, de toutes sortes de choses. Il était censé pouvoir jouer ça. Et dans cette caste des lautars, d'ailleurs il y a une différence en roumain entre le nom musicien et le nom lautar. Les lautars sont des musiciens à part. Ils font autre chose. Et dans cette case de lautar, il y a tout simplement une sélection naturelle. C'est-à-dire que celui qui commençait à jouer, qui jouait pour départ peut-être même dans un village, s'il était bon, il arrivait dans la ville. Si ses enfants étaient bons, ils arrivaient dans la grande ville, et après, ils étaient retirés à l'étranger. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé à la famille Codolban. Ce qu'on sait, c'est que ça a commencé par une ville comme Brela, qui était un port très connu, et qui l'est toujours d'ailleurs au bord du Danube, et qu'après, instinctivement, je veux dire que les choses se sont passées naturellement, ils ont été des musiciens, des lautars, ont été retirés en Russie pour jouer, pour faire des orchestres de divertissement. Parce que les Russes, à ce moment-là, ils n'en ont pas. C'est exactement par la même filière qu'ils ont fait venir les Russes, Johann Strauss, fils, Joseph Gungel, et des tas d'autres orchestres qui venaient d'Autriche, d'Hongrie et de Roumanie. Et ça a duré toute la deuxième partie du 19e siècle jusque la révolution de 1917.
Cet homme, il a 5 enfants, tous vont devenir musiciens.
Absolument.
Il jouait tous du même instrument ou alors il avait déjà une idée d'un orchestre avec ses enfants ?
Ah non, je ne pense pas qu'il avait l'idée d'un orchestre. Évidemment, le fils aîné a choisi le violon comme son père. Je pense qu'après est venu mon grand-père qui, lui, a choisi le cimbalom, cet instrument particulier que l'on retrouve en Roumanie et en Hongrie. Et il y a eu aussi un pianiste, et qui ont fait eux-mêmes des enfants, et qui ont fait des violonistes, des pianistes, etc., etc.
Je suis en train de voir l'arbre généalogique, visiblement il n'y a que ta branche qui est présente actuellement. Les autres branches sont éteintes.
Ah non, il y a d'autres branches.
Ah, d'accord.
Il y a d'autres branches. Il y a la fille de Colin Codolban qui, elle, a épousé aussi un musicien et qui a eu des enfants qui sont devenus également musiciens. Mais bon, le nom de Codolban n'a pas été gardé, effectivement. Mais dans le cas du fils aîné, ses enfants n'ont pas fait de musique, n'ont pas travaillé dans les orchestres, si vous voulez. Ils ont fait une petite carrière anonyme. Son fils, notamment. Enfin, ça n'a pas perduré, vraiment. Seul mon grand-père a continué la tradition. Son fils est devenu pianiste. Et nous continuons.
Toujours dans le même registre pour ton grand-père et ton père ?
Ah, mais c'était très vaste. Très, très vaste, comme on vient de le dire. C'était vraiment... Ça allait de la musique classique à la musique classique légère, le jazz, le traditionnel, le véritable traditionnel, beaucoup moins, pratiquement plus. C'était devenu déjà quelque chose de très stylisé, qui était déjà façonné par toutes les différentes musiques occidentales. Bon, ça a créé un style, effectivement.
D'autre part, ce sont des gens qui ont commencé à partir de 1919. À travailler uniquement en Occident. Ce qui fait qu'à la demande de ce genre de musique spécifique, qu'elle soit roumaine ou hongroise, elle était moindre. Ce qu'on leur demandait, c'était toutes sortes de choses différentes du monde entier. Alors ça se fait exactement selon les affinités de la clientèle, quoi.
Mais il y avait toujours quand même, malgré tout, une touche personnelle, un style personnel par lequel passaient absolument tous les autres genres de musique.
Ce sont des gens qui, au début du XXe siècle, fin du XIXe, voyagent beaucoup, visiblement.
Énormément, énormément.
Ils sont connus internationalement.
Oui.
Déjà, oui.
Ils vont également en Russie, où ils vont jouer pour le tsar de Russie. Ce sont presque même des musiciens attitrés.
Oui, attitrés à la cour, oui. Bon, ils ne faisaient pas que des soirées dans l'antichambre du tsar. Ils se produisaient également dans des établissements publics, bien entendu, mais dès qu'il y avait besoin de divertissement à la cour, c'est eux effectivement qui le faisaient, oui.
Il y a quelque chose qui est très peu connu, c'est qu'aucun des tsars russes n'était mélomane. En partant de Catherine la Grande jusqu'à Nicolas II, il n'y en avait aucun qui était passionné de la musique. Ce qui fait que les divertissements musicaux étaient plutôt rares. Ça se faisait, mais ce n'était pas, Napoléon III avec Émile Waldteufel qui était là tout le temps avec le piano à Compiègne pour jouer des valses. Et alors ils ont joué effectivement à Tsarskoye Selo, ils ont joué dans les palais, mais ils ont joué beaucoup plus pour la noblesse, dont il y avait des gens qui adoraient ce qu'ils faisaient, et moins pour le tsar lui-même, quoi.
Il y a eu la révolution russe, donc ils ont eu besoin de s'expatrier. Ils étaient considérés à ce moment-là toujours comme des Roumains ou comme des Russes ?
Ah. Grande question. Oh, vous savez, c'est un peu comme ici, maintenant. Je suis née en France, je vis ici, mes enfants sont nés ici, et on me demande toujours si je suis française ou roumaine. C'est la même chose. Ça n'a pas une réelle importance. Enfin, ils étaient roumains, oui, évidemment.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils pouvaient, avoir épousé cette révolution russe, alors, ce cas politique.
Bon, et... déjà, non, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils étaient tout de même, ils évoluaient dans un milieu très privilégié. Ils auraient été malvenus de s'insurger contre le pouvoir. Ils vivaient avec le pouvoir, ils vivaient avec la cour, avec les nobles. Ce n'était pas leur problème. Et ils n'étaient pas là non plus en tant qu'intellectuels de la noblesse pour essayer de bouger les masses. Eux, leur vie, c'était la musique, ils étaient artistes. Donc, ils avaient tout intérêt à s'en aller, car on s'en serait pris à eux, évidemment, représentant quand même... Le divertissement de l'élite. Ils ont dû partir. Et d'ailleurs, c'est un commissaire, comment on appelait ça, les commissaires du peuple, qui étaient leurs voisins et qui les respectaient énormément parce qu'ils étaient artistes et ils savaient qu'ils étaient très connus. Et ce commissaire du peuple est venu frapper un soir chez eux en disant « Écoutez, c'est très dangereux pour vous maintenant, vous devriez partir. » Et ils sont partis, voilà.
Et le choix a été la France.
Ben, logique.
Voilà, oui.
Logique, parce que la mode de ce genre d'orchestre de divertissement vient de France, au départ. Et d'autre part, si le grand-père de Véronique Nitzakodolban n'était pas engagé pour la Russie, il aurait été engagé pour la France. Puisqu'en France aussi, depuis le milieu du 19e siècle, il y a des orchestres hongrois et des orchestres roumains qui se produisent avec beaucoup de succès.
Leur arrivée en France, est-ce que tu en as entendu parler? Comment l'ont-ils vécu? Est-ce que ça a été très dur pour eux?
Non, pas du tout.
Ou alors, parce qu'ils étaient musiciens, ils ont pu s'intégrer très très rapidement?
Ah mais aucune difficulté. Ils sont arrivés, ils ont pris une chambre à l'hôtel. Dès le lendemain, ils avaient un engagement. Tout allait bien et puis la vie a continué. Et ils se sont installés. Aucun problème. Aucun. Mon père était tout petit à l'époque et je dois dire que dans tous les pays où ils sont arrivés, se sont installés comme ça, la première chose était de s'occuper des études de leur enfant et mon père a suivi une scolarité tout à fait normale, a suivi tous les cours des conservatoires de toutes les grandes villes d'Europe et c'était quelqu'un qui parlait 6 langues parfaitement. Il n'y avait aucun problème d'intégration, aucun. Absolument aucun.
Je pensais surtout, parce qu'il y a certains Russes blancs, quand ils sont arrivés en France, mm-hmm. ils ont eu beaucoup de mal à reprendre pied, finalement.
Oui, certains ont eu beaucoup de mal à reprendre pied, mais il y avait une entraide, une grande entraide russe. Les personnes qui étaient privilégiées financièrement, par exemple, pouvaient aider certains de leurs amis qui arrivaient et leur permettaient justement de pouvoir trouver une solution. On sait que certaines personnes ont payé des taxis aux célèbres les célèbres chauffeurs de taxis russes. On dit toujours qu'il y avait des princes. C'est vrai, il y avait des nobles qui sont devenus taxis à Paris et on les aidait à acheter une voiture. Enfin bon, il y a toujours une entraide. Mais en ce qui concerne ma famille, il n'y avait pas besoin parce qu'il suffisait qu'ils arrivent et ils étaient immédiatement engagés dans des lieux assez prestigieux. Tout ça fonctionnait parfaitement.
Alors quelle est l'ambiance dans les cabarets à cette époque-là? Est-ce que ce sont des cabarets, ils jouent dans des cabarets russes ou alors dans d'autres types de salles?
Non, les Kodolban au départ, ils ont fait Maxim's pendant une année. Après, ils sont partis aux États-Unis, ils ont fait le Park Hotel de New York pendant une année. Après, ils ont été renouvelés pour encore une année. C'est-à-dire que les cabarets russes, c'est quelque chose qui arrive effectivement au début des années 20, mais ce n'est pas le seul endroit où ce genre de musiciens se produisent. Ils jouaient très souvent dans des casinos, dans des grands palaces. On a des publicités de Negresco à Nice en 1930-31 avec une énorme affiche des Kodolban. Ils sont 20 ou 25 musiciens avec 2 pianistes et tout ça, etc. C'était encore une fois des musiciens, des orchestres de divertissement. Et le terme qu'employaient les propriétaires, c'était Tsigan symphonique. C'est ça qui est marqué sur les contrats. Tsigan symphonique. En quelque sorte, c'était des orchestres qui pouvaient jouer tout ce que les orchestres français déjà savaient jouer ici sur place, en tant que musique classique léger, etc., etc., avec le touch supplémentaire en plus, qui était, voilà, quelque chose de là d'où ils venaient, ou de là où ils avaient été, la Russie par exemple.
Dans la rage de vivre de Milton Metz,
Metzo
et oui. Bernard Wolff, oui. Ils parlent de ta famille en disant que le cabaret dans lequel ils jouent est extraordinaire, du fait justement qu'on retrouve des généraux russes, on sait que les petites qui servent sont des filles hyper distinguées de noblesse russe, et on parle de cet orchestre extraordinaire. En quoi ils étaient extraordinaires ?
Ben déjà, il faut dire que ce sont tous, peut-être pas, mais je veux dire que, oui, tous, ils étaient déjà des très bons musiciens. Et parmi ces très bons musiciens, il y avait des personnes exceptionnelles, comme c'était le cas du grand-père de Véronique, parce que c'était considéré comme le plus grand cembaliste du monde. D'ailleurs, Mesmerov l'écrit, il n'est pas le seul. On n'a pas tout sorti dans cette compile, mais il y a la maison des autographes de Chaliapin, de Mengelbert, des tas de personnes, et on peut lire ce qu'ils ont écrit sur son grand-père. Déjà, ça, c'est quelque chose qui sort de... C'est pas seulement que ça sort de l'ordinaire, c'est quelque chose d'unique. Alors par conséquent, quand on est un musicien comme ça unique, peu importe où on va, ça va très vite, mais très très vite, à une époque où les choses étaient ce qu'ils étaient, mais ça va très vite. Comme le disait Véronique tout à l'heure, en 24 heures l'engagement était là, déjà avant qu'ils arrivent, parce que l'information existait.
Oui, non, l'information existait, bon, on n'avait pas les mails bien entendu, oui. Ni le téléphone portable, ni toutes ces choses-là fabuleuses, mais qui finalement ne servent plus à grand-chose, puisqu'on n'a plus grand-chose à se dire. Mais par contre, il suffisait d'envoyer un télégramme à Paris en disant « les Kodolban quittent la Russie, ils sont à Constantinople, ils vont bientôt être à Paris », pour qu'immédiatement les personnes intéressées réagissent et envoient également un télégramme en disant « bon, eh bien alors, voilà. Très bien, voilà, ça prenait peut-être un peu plus de temps. »
Le temps qui se déplace avec le bateau.
Voilà, mais il y avait une communication réelle et il y avait un aboutissement réel.
La musique qu'ils jouent, on voit arriver le jazz en France, ils se tournent vers le jazz, comment ça se passe ?
Tout naturellement, parce que c'était déjà tout à fait dans l'esprit de la famille. D'ailleurs, Mesmerov, dont tu parles, a écrit un texte dans lequel il explique très très bien en une phrase cette atmosphère et ce style. Il parle justement de cette vivacité, de cette aptitude à improviser et à trouver ce qu'il appelait lui. Il était très étonné d'ailleurs, et c'est ce qui l'a beaucoup marqué, de voir cette forme d'improvisation, d'arriver sur la note empoisonnée. La fameuse.
Disons que dans la pratique des musiciens d'Europe occidentale, l'habitude d'improviser s'était perdue. On avait entendu que Bach improvisait, on savait que Liszt improvisait, et ça s'est un peu perdu dans le XXe siècle. Et ces musiciens qui étaient européens, sauf qu'européens d'une Europe balkanique, arrivaient en sachant improviser. Sauf que leur manière d'improviser n'avait rien à voir avec le jazz. L'Occident s'est épaté parce que de l'autre côté de l'océan venaient des gens qui improvisaient d'une certaine manière, ce qu'on appelle le jazz, et cela venait avec leur jazz, si je puis dire ainsi, qui était aussi une improvisation. De là l'étonnement de Mesmerov.
Et d'ailleurs, un jazz et une improvisation pratiquées depuis bien plus longtemps que le jazz américain, parce qu'il y a des siècles et des siècles que les musiciens tziganes dans les Balkans improvisent. Et comme il n'y a que 8 notes, on a le temps de travailler quand même. Hein.
Avec quelle formation ils jouaient, je veux dire, au niveau musical, qu'est-ce qu'ils avaient comme ensemble? Il y avait combien de musiciens?
Ah, mais ça variait tout à fait. Ils pouvaient commencer par un quatuor et se retrouver, comme disait Constantin, 20 sur scène, avec une formation tout à fait classique, mise à part le fameux cymbalum, évidemment, que on utilise d'ailleurs et on a utilisé dans la musique classique également, mais pour des choses très spécifiques, Bartok, Liszt, enfin bon. Mais il s'agissait d'une formation classique. Premier violon, deuxième violon, alto, contrebasse, piano, enfin, ça pouvait varier, il pouvait y avoir un nombre considérable de musiciens. Puisque justement, la famille Kodolban, de par le mariage de mon grand-père, s'est agrandie de la famille Bajak, qui était également une famille assez reconnue de musiciens. Donc on s'est retrouvés avec les violonistes Bajac, les pianistes Bajac. Donc tout ça faisait une belle masse, une belle tribu sur scène.
Tu en as quel souvenir ?
Oh mais j'ai jamais eu la chance de les voir tous sur scène ou quelque part. J'en ai bien sûr un souvenir étonnant, que ce soit le grand-père, l'oncle, le grand-oncle, le père, le cousin, le neveu, enfin tout ça, travaillait dans des endroits prestigieux, à Paris, à Londres, aux États-Unis, à Amsterdam, un peu partout, et ils se retrouvaient de temps à autre, tous ensemble, et bon, je peux vous dire que c'était une famille, tout ce qu'il y a de plus normal, où on ne parlait pratiquement jamais de musique à la maison.
Est-ce que cela allait de soi que les enfants se mettent à jouer des instruments ?
Oui, jusqu'à une certaine époque, oui. Jusqu'à ma génération, jusqu'avant, c'est-à-dire la génération de mon père, jusqu'à la génération de mon père, oui, tout à fait.
On ne pensait pas à autre chose, c'était absolument indéniable. De toute façon, tout le monde changeait de pays sans arrêt, il valait mieux quand même, voilà.
Et par contre, dès qu'ils se sont installés en France pour une partie, par exemple, je ne sais plus, en Hollande pour une autre partie, là, ils ont tenu à ce que leurs enfants, leurs filles, parce qu'ils n'ont eu tous que des filles. Alors des deux côtés, que ce soit les Codolbans ou les Bajac, une fois qu'ils sont arrivés ici, France, Hollande, etc., pour s'installer, ils n'ont eu tous que des filles. Donc ils ont voulu mettre toutes leurs filles à l'école, qu'elles fassent des études comme les autres, comme tout le monde. Éventuellement, bien entendu, apprendre un instrument ou faire quelque chose à côté, mais vraiment s'intégrer totalement, puisque pour la plupart, il n'était plus question de bouger. Ils s'installaient définitivement, vu leur âge également, parce qu'ils en avaient un peu assez, il faut dire. Et c'est quand même à partir de là que la dynastie de musiciens s'est effritée.
Est-ce qu'on considérait aussi que les filles n'avaient pas leur place sur la scène ?
Ah non, non, c'est pas vrai. Non, une de mes cousines, qui est la fille d'un des frères de mon grand-père, était pianiste, très valable, très connue aux États-Unis, et malheureusement, elle est décédée à l'âge de 25 ans. Mais non, pas du tout, hein. Ce n'était pas tribal à ce point-là, hein. Non. L'égalité fait. De toute façon, on dit toujours que chez nous, chez les Codolbans et les Bajac, ça a toujours été une société matriarcale, et c'est vrai. C'est, les hommes étaient sur scène et les femmes tenaient les culottes à la maison.
Les hommes frimaient, la portaient l'argent, quoi. Mais ils frimaient bien.
Ah, ils frimaient très bien.
Alors, ton père, on va en venir à ton père, c'est Nicky Codolban.
Oui, Nicolas.
Qui est pianiste,
oui.
Compositeur, chef d'orchestre. Mm-hmm, oui. Quel style de musique, là ?
Tous les styles, encore une fois. Il a fait ses études de piano classique partout, comme je te disais tout à l'heure. Il est à Berlin, à New York, à Londres, à Paris. Il a eu un enseignement extrêmement soutenu partout. Et puis, bon, il a suivi son père. Et puis, dès qu'il a pu commencer à jouer sur scène, il s'est adapté à tout ce qui se jouait dans l'orchestre de son père, bien entendu. Et malheureusement, il aurait pu faire une énorme carrière de pianiste, mais il a accompagné son père jusqu'au bout. Il est resté avec son père, il ne l'a jamais laissé, et ils étaient vraiment comme deux frères. Il y avait une différence d'âge assez petite, il y avait à peine 20 ans de différence. Mmh. Et jusqu'au bout, on les prenait d'ailleurs toujours pour deux frères. Il est resté toute sa vie avec lui et ils ont formé un duo extraordinaire, parce que vraiment, c'était deux instruments qui n'en faisaient qu'un.
Alors toi, comment tu percevais ça, justement ? T'es baignée là-dedans ?
Rien de particulier. C'était normal. D'ailleurs, je m'étonnais que les autres nos enfants n'aient pas des parents musiciens.
Mais t'as suivi un enseignement au conservatoire ? Ton père
t'a
dirigé ?
Oui.
Comment ça s'est passé ?
Alors, il fallait que je fasse comme tout le monde. Alors, je suis allée à l'école, comme tout le monde. J'ai fait mes études, comme tout le monde. Je suis allée au conservatoire aussi. Mais moi, ça ne me disait pas trop, le conservatoire. Je trouvais ça très, très ennuyeux.
Tu jouais d'un instrument ou c'était pour la voix ?
Oui, j'ai joué un peu de piano, comme tout le monde. Mais très vite, ça ne m'a plus... Et puis, l'atmosphère n'était plus la même. En venant s'installer ici... L'individualisme a pris le dessus. Il n'y avait plus l'atmosphère tribale entre guillemets, de tous ces gens qui vivaient pratiquement ensemble, qui voyageaient ensemble, qui se produisaient ensemble, qui émigraient ensemble, qui fuyaient des révolutions ensemble. Voilà, ça crée toute une atmosphère. Et là, arrivé ici, où il n'y avait encore pas de révolution à craindre, où tout allait bien, l'individualisme, chacun est parti de son petit coin. Ils ont épousé des Françaises, ils ont vécu un peu plus séparés, et l'atmosphère n'était plus la même. Donc on avait plus cette émulation comme ça, de se dire qu'on appartenait à un clan. D'ailleurs, le mot clan est quand même beaucoup plus adapté que tribu, je trouve. Et puis, chacun avait sa vie. C'est vrai que le matriarcat n'a plus existé. Et je dois dire que tout s'est un petit peu cassé la figure.
Ouais.
Comme quoi, tout ça tenait sur les femmes. Qui tenaient le contact entre chaque famille, qui gardait cette atmosphère. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais une fois qu'il a fallu faire plaisir à la petite Française... Chacun restait chez soi et...
Ils perdent ce côté slave.
Non, c'est pas le côté slave, c'est le côté de clan. C'est un clan. On peut presque comparer ça à des guerriers.
D'accord.
Ce sont des guerriers, on va dire, de père en fils, depuis des générations, qui ont toujours vécu ensemble, pour lesquels, on va dire, la guerre a été le seul sens de la vie. Et les femmes ont suivi, ont maintenu, parce qu'elles étaient elles-mêmes filles de guerriers, et les femmes ont maintenu toute cette atmosphère. Donc cette émulation, cette force, à partir du moment où il n'y a plus le noyau central, c'est fini. C'est-à-dire que, bon, chacun est parti travailler un peu dans son petit coin, il fallait rentrer à telle heure parce que, attention, ça... Bon, les nôtres rentraient tard, et il arrivait parfois que ma grand-mère attende mon grand-père avec un parapluie à la main derrière la porte pour lui taper dessus, parce qu'il était rentré quand même à 7h, 8h, 9h, voire midi.
Ouais.
Mais là, je dois dire que les Français, sans parapluie, ont obligé leur mari à rentrer... sagement à la maison, parce qu'il fallait quand même que les voisins ne disent pas que... etc.
C'est
une autre vie, une autre mentalité, tout à fait autre chose. Mais je dois dire que je ne veux pas jeter des pierres encore une fois, ça s'est fait naturellement, mais tout s'est un petit peu sclérosé à partir de là, oui. Est devenu un petit peu d'un intérêt moindre. Ils ont perdu leur force.
Quand vous vous êtes occupé de la compilation Les Seigneurs de la musique d'Igan, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ?
La modernité, le punch, la modernité. Bon, pas pour tout, mais surtout pour mon grand-père, l'humour. L'humour dans la musique, quelque chose qui s'est perdu, c'est jouer. On joue d'un instrument. C'est le bon terme, parce qu'il faut non seulement être un technicien, mais il faut savoir jouer, dans le sens s'amuser. Et ça se perd, ça devient quand même très laborieux maintenant, la musique. Tandis que là, vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Ouais, c'est surtout ça qui m'a marqué. La modernité, la malicité, le plaisir, quoi, en fait. On sent qu'il prenait un grand plaisir à faire ce qu'il faisait, vraiment.
Est-ce qu'il y a une période que tu as beaucoup plus appréciée que d'autres dans ces différents morceaux ? Ça joue sur combien d'années, compilation ?
Je crois que les derniers enregistrements qu'on a retrouvés, là, c'était des enregistrements de 1927, c'est ça ? Alors, ça va de 1927 au début des années 60, allez, on va dire. Tout est différent, l'époque est différente, le goût de la société est différent. Et puis, eux jouent à des âges différents également. Quand ils ont 30 ans, c'est une chose. Quand ils en ont 50, on ne peut pas. Je n'ai pas de préférence, vraiment. Je n'ai pas de préférence. Il faut quand même se mettre dans le contexte de l'époque, de l'âge de l'interprète, de ce qu'il a vécu, qui est plus ou moins proche comme événement, de sa manière de jouer, quoi, je veux dire. Donc, non, je n'ai pas de préférence. Sincèrement, je n'en ai pas. Mais en ce qui concerne la caractéristique de ma famille, ce qui m'a le plus étonnée, c'est ça. C'est la modernité et la malicité.
Est-ce qu'il y a une signature familiale dans la musique qu'il jouait ? Est-ce qu'on la retrouve entre l'arrière-grand-père, le père, enfin le grand-père, le père ?
Alors l'arrière-grand-père, je ne sais pas, je n'ai jamais rien entendu. C'est pas possible. Mais il y a une grande différence tout de même entre mon grand-père et donc son fils également, donc sa branche, la branche de mon grand-père, et les autres frères qui sont quand même restés très très proches d'un style un peu plus conventionnel. ils n'ont pas eu cette, comment dire, ce un peu moins de peps. Mais ça, c'était lié vraiment à leur personnalité. Ils avaient peut-être traversé d'autres difficultés, la vie avait été peut-être plus compliquée pour eux, le frère aîné avait peut-être justement trop connu et trop travaillé avec son père. Qui... Bon, c'est complexe tout ça, hein. Mais vraiment, je crois que mon grand-père était tout à fait à part, oui, complètement à part. Déjà au niveau de personnalité, il était à part et on le ressent vraiment dans son jeu.
On parle à cette époque, même maintenant, mais surtout à cette époque-là, il y a de grands musiciens de jazz qui tombent dans la drogue, dans la boisson et autres. Comment se plaçait ta famille par rapport à ça, à ces New-Yorkais ou ces Américains qui arrivaient, qui avaient déjà beaucoup vécu?
Oui, mais enfin, tout dépend de ce qu'on appelle avoir beaucoup vécu. On peut beaucoup se droguer et pas avoir vécu aussi. Hein.
Oui, aussi.
Bon, voilà. Alors, question drogue, jamais rien, ça c'est certain, mais ils n'avaient pas besoin. Hein. Ils étaient capables de se mettre en transe devant leur instrument. Juste le temps de jouer, hein. Parce que juste avant, rien. Juste après, rien. Mais pendant qu'ils jouaient, oui. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment un mécanisme tout à fait cérébral. Hein. Ils n'avaient pas besoin de prendre aucune drogue. Et vous les mettiez devant leur instrument et vous aviez l'impression qu'effectivement, ils avaient dû fumer un joint ou se piquer quelque chose, parce que ce n'était pas possible à tel point il y avait d'enthousiasme et de délire musical, tout en restant compréhensible. Hein, parce que le délire musical, on en entend aussi maintenant,
oui,
mais
oui,
bon,
oui.
Autre chose. Non, ces problèmes-là les laissaient complètement froids et ne comprenaient pas d'ailleurs. D'ailleurs, je me souviens, j'étais gamine et je regardais un document sur Louis Armstrong. Et mon père était à côté de moi, n'y prêtait mais alors pas la moindre attention, tout ça. Je lui dis, bah alors, tu connais Louis Armstrong? Bah oui, oui, j'ai travaillé avec lui. Je l'aime pas, il se drogue.
Oui, ouais, mais c'était une opinion bien arrêtée.
Mais complètement,
déjà.
Mais rien à voir, oui, quoi. Mais rien à voir. Le côté, oui. Un artiste, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Mais alors, ça leur était totalement étranger. Mais ils avaient ça dans le sang depuis des générations.
Oui.
Enfin, il n'y a pas besoin de se... Bon, si l'être humain a besoin de se droguer, c'est autre chose.
Autre chose.
Ça, c'est autre chose. Mais je ne pense pas que ce soit parce qu'il est musicien. Il aurait fait un autre métier, il se serait drogué aussi.
Et tout à l'heure, j'ai réagi quand tu as dit slave. Les Roumains ne sont pas des slaves.
Oui,
les Hongrois ne sont pas des slaves. Et sur les Balkans, de là d'où je viens aussi, on est tellement mélangés que même si on a quelque chose de slave, c'est très peu. Sauf la langue, par exemple, pour les Bulgares. La manière de s'amuser, la manière de vivre, la manière de boire... est déjà complètement différente par rapport aux Slaves.
Ils ont beaucoup vécu là-bas.
Mais ils aimaient beaucoup la Russie. Ils ont adoré la Russie.
Bien sûr.
Et ils l'ont toujours regretté. Toujours, toujours.
Mais c'est pour les dimensions, pour les possibilités qu'ils avaient aussi du travail, pour l'argent aussi qu'ils ont gagné, parce qu'effectivement, c'était quelque chose de... Après, ils ne l'ont pas retrouvé.
Oui,
même si c'était extraordinaire, c'était mieux qu'ailleurs. Voilà. Mais pour le reste, je veux dire, je ne crois pas qu'ils avaient, parce que j'ai quand même connu son grand-père aussi à la fin, c'était des gens qui aimaient bien boire, pour se saouler la gueule. Moi, je me rappelle de son grand-père avec la cigarette à la main et le verre du cognac dans la main. Mais c'était pas pour se saouler. Ça veut dire qu'encore une fois, comme disait Véronique, c'était pas je vais boire pour jouer bien ou après je vais boire, je vais me droguer parce que je vais jouer bien. C'était des bons vivants. Ils aimaient bien la vie et de toute façon, ils savaient se contrôler. Dans le sens que pour faire déjà leur boulot, s'il fallait pas qu'ils boivent trop avant, ils ne buvaient pas avant. Et s'il avait envie, il buvait après. Mais tout ça, il n'y avait pas ce côté, justement, cette idéalisation.
Il n'y avait pas d'idéalisation, il n'y avait pas de mise en route, de mise en forme,
voilà.
Mais de mise en condition. Comme je te disais, la condition, elle venait immédiatement. C'est-à-dire que, effectivement, quand ils étaient à leur instrument, ils étaient drogués, dans le bon sens. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce que les musiciens recherchent dans la drogue? C'est-à-dire la libération, un peu, de la désinhibition. Voilà. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils l'avaient naturellement.
Ouais, si on s'assoit à une table, et si moi j'aime bien le vin, et l'autre il aime bien boire du whisky... C'est pas obligatoire que je vais boire son whisky et qu'il lui boive mon vin.
Oh,
je
non,
vois
non,
pas
y
ce
y
qu'il y a à boire.
Il n'y avait pas de...
Du moment qu'il ne boit pas dans mon verre, c'est ça quoi.
Non, mais tu veux dire je ne vais pas le convaincre qu'il boive du vin et vice-versa. Un point,
oui,
c'est
oui.
Tout.
Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, la drogue n'était pas diabolisée comme elle l'est maintenant. On ne donnait pas de la drogue aux enfants à la sortie de l'école. C'était les adultes qui décidaient de prendre de la drogue. Et puis c'est tout. Dans les années 30, il n'était pas rare que, après une réception, l'hôte propose un peu de cocaïne à ses invités. Que, ah, d'ailleurs, les opiumades, ouais, voilà. Et c'était même destiné à une élite.
Nous avons eu des ministres de la culture qui échangeaient les trois, hein, cocaïne.
Voilà, voilà, par exemple.
Et c'était pas, il y a pas si longtemps.
Voilà,
que ça.
Donc il n'y avait pas cet esprit. Et ça aidait effectivement à créer quelque chose, à se désinhiber. Bon, évidemment, depuis que la drogue est devenue ce poison que l'on donne aux enfants à la sortie des écoles, ce qui est absolument innommable, enfin bon, je veux dire, c'est le fléau, c'est le fléau total de notre siècle. Et je m'étonne encore que ça puisse perdurer, parce qu'il y a quand même des moyens d'arrêter ça, qui détruisent, enfin bon, ça ne fait que détruire... des esprits encore jeunes, faibles. Mais à cette époque-là, mais c'était pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Se droguer un peu avant d'entrer en scène, pour certains, c'était comme pour d'autres, boire une coupe de champagne pour se donner un peu de courage. Bon, c'était pour se donner un petit peu de cœur à l'ouvrage, quoi. Bon, il y a eu beaucoup de grands interprètes qui en sont morts. Mais encore une fois, ce n'était pas parce qu'ils étaient de grands interprètes, c'est parce que l'être humain avait un problème.
Bon, et après Baudelaire qui dit que l'homme qui ne boit que de l'eau, enfin, ça ne lui inspire pas confiance.
Oui, non, mais on parlait de la drogue. Voilà. Alors moi, je ne veux absolument pas faire l'apologie de la drogue parce que c'est une chose
épouvantable.
Je veux dire, on ne peut pas adapter les comportements et les opinions de maintenant à cette époque-là.
Voilà.
Ce n'était pas la même chose. Hein, ça n'était pas du tout la même chose. Et effectivement, moi, j'aurais quand même beaucoup moins confiance en un écrivain ou un poète qui ne boit que de l'eau et mange des carottes râpées. Je suis de ton avis.
Voilà.
D'ailleurs, moi,
c'est ce qui me fait un peu peur dans notre civilisation actuelle,
c'est qu'à force de vouloir être en très bonne santé, rester jeune éternellement, bronzé, manger des carottes, des produits bio, c'est bien les produits bio, mais enfin bon, voilà, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas ceci, ne pas cela, mais je trouve ça formidable parce que les gens vont vivre beaucoup plus longtemps, très certainement, mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder alors ? Plus de grands poètes, plus de grands artistes, plus personne. Voilà, et on ne parlera plus comme on ne parle plus maintenant dans les réunions mondaines de « Depuis quand tu as arrêté de fumer ?»« Ah oui, moi ça fait 6 mois. »« Oui, alors moi je ne mange plus de ceci, je ne mange plus de cela, mais j'ai arrêté l'alcool aussi. » On ne parle plus que de ça. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'art, il n'y a plus d'intellect, il n'y a plus rien. Bon, c'est une période comme ça, c'est peut-être une charnière dans notre époque, mais j'espère qu'il y aura de l'esprit encore. À un moment.
On va en venir à ton grand-père et ton père. Tu disais tout à l'heure qu'ils jouaient tout le temps ensemble, donc ils étaient indissociables, ils n'arrivaient pas à jouer dans un groupe l'un. Et puis
ah si, tout à fait, mon grand-père a eu ses orchestres, ils pouvaient tout à fait jouer séparément, mais ils revenaient toujours à former ce duo, et c'est leur histoire. Hein. Mais mon père a eu des orchestres de jazz au Brésil, notamment, et mon grand-père a eu ses propres orchestres, mais la symbiose ne se faisait pas aussi bien. C'était vraiment, je veux dire, quand on écoute des duos piano cymbalum, ils ne forment plus qu'un instrument, un seul artiste. On a l'impression que vraiment, là où s'arrête l'un, l'autre s'infiltre, et c'est extraordinaire. J'ai rarement entendu deux personnes, duettistes, quels qu'ils soient, arriver à cette forme-là.
Par rapport à ton père, le fait d'avoir fait une carrière musicale, ça t'a pris à quel âge ? De vouloir faire une carrière musicale ?
Oh, mais c'est pas que j'ai voulu ou pas voulu, ça s'est fait tout petit à petit normalement. Je m'en suis même pas aperçue. Et puis un jour, j'ai dit, mais écoute, moi, je vais chanter, moi. Parce que moi aussi, j'ai baigné dans toutes sortes de musiques, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'atmosphères, et j'ai eu envie de chanter. Et d'ailleurs, je suis sûre que je ne suis pas la seule. L'arrière-grand-père devait chanter aussi. D'ailleurs, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un livre qui a été écrit en roumain par un historien et qui parle justement de mon arrière-grand-père comme étant un des musiciens et chanteurs les plus connus à cette époque-là. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, pourquoi pas ? Et puis, ça s'est fait tout naturellement. Il est débuté avec mon père, mon grand-père.
Tu les as suivis dans des tournées ?
Non, mais il n'y avait plus de tournées à cette époque-là. Mon grand-père avait plus de 80 ans. Mon père avait plus de 60 ans. Et comme disaient un peu Mozart et Chopin, Mozart disait que le seul pays en Europe, parce qu'il faisait des tournées, Mozart aussi, il allait jouer dans toutes les cours et dans toutes les villes, les capitales européennes. Alors le seul pays où on a parlé pendant son concert, c'est Paris. Et pour Chopin, le seul pays où on devait fermer les portes du buffet à clé pendant qu'il jouait, c'était à Paris également. Et donc à cette époque-là, c'est l'époque où tout a commencé un peu à décliner. Je ne parle pas de mes parents, mais je parle de l'atmosphère, de cette atmosphère artistique parisienne, on va dire, qui a commencé à péricliter. Il n'y avait plus ce mouvement, cet enthousiasme. Les choses se sont un petit peu tassées comme ça, et puis ils ont fini leur vie en jouant toujours dans le même cabaret, tous les soirs, bien sagement.
On a l'impression, quand on lit des descriptions de l'époque des années folles, qu'il y a une très grande distinction au niveau façon de vivre dans ces gens qui allaient dans les cabarets. C'est vraiment un monde en dehors de ce qui est populaire. Comment vous le ressentez, vous ?
Ben, les gens savaient se tenir.
Non, excuse-moi. On ne peut pas comparer non plus cette époque avec la nôtre. On ne peut pas. Parce que même si vous étiez petite ouvrière, petite main dans une maison de couture, ou que vous travailliez quelque part dans un magasin de lingerie, ou que vous soyez blanchisseuse, ou que vous soyez quoi que ce soit pour les femmes, je dis bien, vous aviez le petit chic parisien. Une femme ne sortait jamais si elle n'était pas impeccable. Elle savait faire ses robes elle-même. Elle regardait les revues de mode. Elle essayait de copier. Elle faisait son petit bibi, son petit chapeau avec sa petite fleur ou sa petite plume. Enfin bon, bref, il y avait un petit chic parisien pour tout le monde. Absolument tout le monde. Et tous les hommes, qu'ils soient des dandys ou des ouvriers, enlevaient leur chapeau pour saluer quelqu'un. Donc, il y avait une sorte de, comment dire, malgré les difficultés financières, malgré des crises abominables, malgré la pauvreté, malgré tout ce que vous vouliez, il y avait une forme d'intelligence de la société qui avait très bien compris que malgré tous les malheurs qui peuvent arriver, malgré toutes les différences de caste, on va dire, qu'il puisse y avoir, il y avait un bon entendement et une manière de faire fonctionner tout ça. C'était un certain savoir-vivre. Déjà, un, de ne pas tout le temps se plaindre, de ne pas trop se montrer et de toujours être courtois. Il n'y avait pas forcément une grande culture, mais il y avait un respect mutuel. Il y avait, voyez, et ce qu'il y a, c'est que ça se répercutait dans toutes les strates de la société. Donc, les cabarets, évidemment, étaient destinés à des gens qui avaient de l'argent, forcément. Un ouvrier n'allait pas dépenser des mille et des cents pour ouvrir des bouteilles de champagne, pour écouter un musicien venu du bout du monde. Donc, ces gens-là, évidemment, savaient se tenir exactement comme les autres, comme tout le monde. Il n'y avait aucune différence entre la façon de se tenir des riches et des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une dignité qui était commune. Et que l'apparence et la différence, bon, c'était l'argent, bien entendu, le manteau de vison d'un côté et le petit drap de laine pour l'autre. Mais il y avait une cohésion de la société à ce niveau-là. Bien sûr qu'on rencontrait des belles dames en lamé avec des manteaux d'hermine et des messieurs en chapeau claque, etc. dans les cabarets à la mode. C'est normal. On n'était pas encore arrivé à l'époque où les milliardaires s'habillaient en jean pour passer inaperçus dans les cabarets, quoi. Voilà, c'est tout.
Ben, c'est un peu ce que je disais, c'est que les gens savaient se tenir. Et je disais les gens d'un certain milieu. Mais en fait, en disant ça, je ne disais pas que les autres ne savent pas se tenir. C'est que simplement ceux qui savaient se tenir et qui étaient d'un certain milieu donnaient l'exemple. Et même les plus pauvres et les plus simples, quand ils sortaient, quand ils sont dimanchés, enfin, je veux dire que c'était...
Voilà. Non, bon, ça aussi, tu le coupes,
mais
c'est n'importe quoi.
C'est pas grave.
Coupé !
Attends.
Bon, tu feras pas ma campagne. Hein.
Non, je ne vais pas ta campagne.
Mais l'autre est-ce que chose... c'était justement ces cabarets, est-ce qu'ils étaient d'accès possible pour des gens qui avaient peu d'argent ?
Et bien sûr que non.
Voilà.
C'est... Bien sûr que non. Oui. Parce que déjà, pour entrer, il fallait être en smoking. Mm-hmm. Il fallait avoir une robe du soir et beaucoup d'argent. Non,
voilà.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Oui, mais Pigalle, jusque 1950, pendant 30 ans, depuis 1920 jusqu'à 1950, et ça tout le monde l'écrit, qu'il fasse ta campagne ou pas, tout est mélangé. Dans la rue, on rencontre les milliardaires avec le Macron, avec la péripatéticienne, tout ça, c'est sur le même trottoir.
Mais c'est ce que je dis,
c'est une pigalle comme c'était autrefois Montparnasse.
Une société qui fonctionnait parfaitement.
Oui. Voilà, et c'est ça qui fait un monde.
Mais maintenant, on vit dans une société de caste. C'est un comble, non?
Qu'est-ce que tu en retires de ton immense famille musicienne? Toi, qu'est-ce que tu en ressens? Tu l'as dans la peau?
Oui, enfin, je l'ai dans la peau dans le sens le plus littéral.
Oui.
C'est-à-dire, je l'ai dans la peau. Je n'y mets aucune connotation d'exaltation ou de quoi que ce soit. Je l'ai dans la peau. C'est-à-dire, tu peux me réveiller à 3 heures du matin et me demander de te chanter quelque chose. Je crois que je te le chanterai avec autant de cœur que si j'ai répété 3 heures, quoi. Je l'ai dans la peau, dans ce sens-là.
Justement, une musique, qu'est-ce qui te vient le plus en tête, par exemple?
Oui.
Moi, je chanterais une chanson de Serge Gainsbourg ou n'importe quoi.
Mais toi? Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais alors, tout et n'importe quoi. Vraiment, vraiment. Et alors, c'est ce qu'on retrouve justement quand on écoute certains enregistrements. Mon grand-père qui adorait faire un truc, il adorait faire des pots pourris. Et ben, c'est délirant, quoi. Ça part d'un menuet classique et ça se termine sur un rock'n'roll en passant par une petite chansonnette française. Enfin, et tout ça en s'amusant. Et tout ça, mais vraiment, mais harmonieusement, c'est extraordinaire, quoi.
La musique de ta famille, on peut la retrouver à quel endroit, où, comment? Tu m'as dit que tu avais sorti une compilation.
Oui. Alors, bon, bah, pour l'instant, on la trouve justement chez Reader's Digest. Pour l'instant, c'est ça. Mais j'ai quand même l'intention d'essayer d'intéresser quelques maisons de disques en Allemagne surtout, parce qu'ils ont toujours été très, très friands de ce genre de choses. Et la tradition n'a pas disparu totalement comme ça. Il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à cette forme de musique.
Est-ce qu'il existe des partitions qui n'ont jamais été jouées?
Jamais été joué, oui, probablement, oui. Bon, ça, on va encore demander à l'archiviste, là. Voyez le... Regarde, là. Regarde,
oui, mais ça n'a aucun intérêt.
Il est en train d'hocher la tête dans sa barbe.
Ce n'est pas eux qui vont les jouer, ce sera quelqu'un d'autre.
Mais voilà, c'est ça le problème, c'est ça. Il n'y aura pas la bonne patte, il n'y aura pas le...
Oui, il y a des compositions du père de Véronique que je n'ai pas retrouvées sur disque. Pourquoi pas, mais ça, encore une fois, il faudra que l'occasion se présente et... Puisque je les ai quand même connus, et le grand-père et mon beau-père. J'aime pas. Quand c'est comme ça, c'est qu'on dirait qu'ils vont sortir de la tombe et ils vont me foutre une baffe.
Oui,
alors,
déjà,
je préfère
ne
pas le faire.
Alors,
déjà, voilà. La petite fille et la fille vont faire la gueule. Alors,
pour terminer, tu as une carrière donc, de chanteuse et il y a ta fille.
Oui.
Et vous êtes dans le même mouvement musical? Comment ça se passe maintenant?
Non, c'est-à-dire qu'elle a pris tout ce packaging, le kit, et il ne faut pas oublier qu'elle a un papa qui est musicien aussi. Donc elle a pris des deux côtés, et elle a également ses goûts, c'est différent, enfin, je veux dire. Et puis bon, c'est une jeune femme de 30 ans, voilà. Elle a baigné dans un tas de choses que moi je n'avais pas. Enfin bon, à chaque époque, les choses évoluent, bien entendu. Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice.
Et toi qui as connu donc le père de Véronique, quand tu vois sa fille, il y a des moments où tu lui dis « Oh là, tu ressembles à ton père ?»
Non.
Non, alors ce qui est très drôle, c'est que quand il n'est vraiment pas d'accord avec moi et quand on s'engueule comme ça, il me dit « Tu me fais penser à mon père, ça c'est la meilleure.
» Oui, elle me fait penser plus à mon père.
Ça c'est extraordinaire, ça.
Le mot de la fin, il y a un disque qui est prévu pour vous deux?
Pour un des deux, si Constantin prépare un album de ses chansons bulgares, qui sont très prisées en Bulgarie.
Par une certaine élite.
Voyons, bien sûr. Petit à petit, je vais essayer de me dégager de certaines obligations pour moi aussi essayer de mettre sur
support
audio.
Avec ta magnifique voix, chaude. C'est très très agréable à t'écouter.
Merci, Marie.
Merci à tous les deux. Merci Constantin pour la note archivistique.
Oui, c'est très important.
La mémoire de la famille Kodolman.
Tout à fait.
C'est lui qui colle les petits articles, qui garde tout.
Ouais, c'est ça.
Voilà, très soigneusement, puisque j'avais vu la photo de l'orchestre à Biarritz, au casino de Biarritz, j'imagine.
Voilà, très justement, classe. Il y avait toute la famille des deux côtés, les Kodolman, les Bajac réunis. Il y avait le patriarche Bajac avec tous les frères et tout. Enfin, c'était incroyable. Maintenant, on connaît ça que pour les les guitaristes gitans, les choses comme ça, où on a pris l'habitude de voir les frères. Et...
Voilà, merci beaucoup. Alors merci, moi je vous conseille d'acheter Les Seigneurs de la musique tzigane, on va vous donner les références. Autre radio, autre culture, au revoir. Autre radio, autre culture.